Alphonse Daudet. Le danger. Étude. Ne va pas là, il y a du danger. Quel est l'enfant qui, entendant cette phrase, ne se sent invinciblement attiré vers le coin dangereux qu'on lui dit d'éviter? Rien que ce mot de danger lui fait battre le cœur. Il s'approche, il rôde, il regarde. C'est là. Et, tout au fond de sa peur, il y a quelque chose qui l'entraîne, le fascine. C'est l'attrait du danger. Je me souviens que, tout petit, on me menait jouer quelquefois dans un grand parc abandonné. Il y avait, au fond de ce parc, sous un fouillis de ronces, de broussailles, une vieille terrasse très haute qui donnait sur un petit chemin à travers blé. Ce petit chemin me tentait. J'aurais voulu y sauter de là-haut. Mais c'était si loin, si profond. Je passais des heures sur ma terrasse, rouge, ému, à me dire « Je sauterai, je ne sauterai pas !» Enfin, un jour, n'y tenant plus, je sautai et je me fis grand mal. Mais c'est égal, j'étais content et comme soulagé d'un poids énorme. Il y a positivement un grand attrait dans le danger et l'on est obligé de l'aimer malgré tout. C'est une de ces fortes sensations qui vous fouettent, vous secouent, vous donnent à vous-même la mesure de ce que vous pouvez faire, de ce que vous valez réellement. L'homme qui vit tout au-dedans de nous et qu'on ne voit presque jamais, le danger le fait sortir, le déprisonne. Il brise les conventions bêtes de la vie, toutes ces barrières dont nous nous entourons. Et lui seul, mieux qu'aucune république, établit nettement l'idée d'égalité, de fraternité, peut-être aussi parce qu'il amène l'idée de la mort. Jamais je n'ai vu autant de cordialité entre les hommes, une expansion aussi complète qu'en face du danger. Il semble qu'à la chaleur des mains serrées, la fièvre du courage se communique. Et l'on sent qu'on en a tant besoin. Ce qu'il n'y a pas à dire, à cet attrait du danger se mêle toujours, même chez les plus braves, un serrement de cœur, une appréhension, un mouvement en arrière que je fis si souvent, penché sur la terrasse de mon parc et qui me rendait le saut plus tentant chaque fois. L'habitude seule peut vous débarrasser de ces crises de faiblesse. Et encore, l'habitude d'un danger ne vous bronze et ne vous rend fort que contre ce danger-là. En mer, par gros temps, là où les matelots manœuvreront de sang-froid, habitués qu'ils sont au cri du vent, à l'effondrement des lames, un vieux troupier, sorti de 100 batailles, pourra pâlir, frissonner, sans être un lâche pour cela. Lui, il est fait aux obus et aux balles. Il s'est habitué à l'idée de mourir, étendu dans un champ, au rebord d'un fossé. Mais mourir noyé, se débattre dans ce bouleversement d'écume, de flots verts. Du moins, si on lui permettait de se mêler à la manœuvre, si on le mettait à une pompe, à une amarre. Non, il faut rester là, sur le pont, inutile et immobile, devant ce danger inconnu. C'est terrible. J'en parle peut-être comme méridional que je suis, mais il me semble qu'en s'agitant, en se démenant, en s'entourant de gestes et de paroles, on a moins la sensation du danger. L'officier qui conduit ses hommes au feu, la voix et l'épée haute, « Avancez donc, nom de Dieu !» a, selon moi, moins de peine à être brave que le pauvre lignard, silencieux, automatique dans le rang. En réconfortant ses soldats, il se réconforte lui-même. Oh, ce petit frisson, cette haleine du danger qui vient, quel est celui de nous qui ne l'a pas connu une fois? Cela passe comme une ombre sur les visages. En même temps, les gestes s'affirment, se raidissent. On se tient, on est prêt. Attention, nous y voilà. C'est alors qu'il fait bon regarder autour de soi et que les effets du danger sont curieux à observer. Sur chacun, il se traduit différemment. Il y a des gens qui deviennent bavards, qui semblent ne plus pouvoir retenir leurs paroles. D'autres, au contraire, serrent les dents, se recueillent. À côté de ceux qui rient nerveusement, il y en a que cette gaieté agace et qui trouvent que c'est bête de rire comme ça. À mesure que le danger approche, les traits pâlis se serrent dans une concentration de tout l'être. Les yeux se dilatent, les voix changent de diapason. On entend des voix de tête, blanches, blafardes, qui ont l'air de parler dans un cauchemar. Mais ce ne sont pas seulement les êtres que le danger métamorphose, il y a dans son atmosphère, comme une sonorité, un vide étonnant. Tout vibre, tout est sensible. Le paysage lui-même est atteint, changé, développé dans son côté mélancolique. En plein soleil, la sensation du danger donne tout à coup l'impression d'un demi-jour, d'un pâlissement de la lumière. Le ciel devient dramatique, la nature s'agrandit. Nous avons pu nous rendre compte de cela, nous tous qui, au moment du siège, nous sommes trouvés mêlés à quelques escarmouches aux environs de Paris. Cette campagne familière, ces gares, ces bords de Seine ou de Marne, dont les talus sont usés au pied des promeneurs, nous faisaient l'effet d'un pays inconnu, ou plutôt transfiguré. Les enseignes d'auberge avaient l'air sinistre. Et ce n'étaient pas seulement les barricades, les terrassements, les ponts rompus, les fossés de la Grande Garde qui donnaient une physionomie nouvelle à toutes ces choses. C'était l'atmosphère du danger. Je me suis retrouvé l'autre jour dans un petit coin de Marne où j'avais eu pendant la guerre 5 minutes de vrai danger, de grande émotion. Les roseaux du bord de l'eau, un mur blanc tout neuf, criblé de balles comme une plaque de tir, une gargote ruinée avec sa tonnelle en grillage, garnie de vignes, tout cela m'était resté dans les yeux, gravé en une seconde par cette vision si vive des choses qu'on a dans le péril. Et pourtant, c'est à peine si j'ai reconnu l'endroit. C'était bien toujours la même masure, le même petit mur blanc tout troué, mais il n'y avait plus de Saxons embusqués de l'autre côté de la Marne, et le danger disparu, ce bord de l'eau qui m'avait paru si grand, si dramatique, ne m'a plus fait l'effet que d'un petit coin de paysage parisien, bien bourgeois, bien du dimanche. Mes amis, vive le danger ! Il n'y a rien de tel encore pour tremper les âmes. Si les plus forts ont un frisson à son approche, quelle merveilleuse chaleur il vous laisse au cœur en s'en allant. Après cet appel à toutes nos forces vives, quelle expansion, quelle détente de tout l'être. Comme on rit bien, comme on est heureux de vivre. C'est la réaction d'un feu clair bien flambant après une route au grand froid. Je ne l'ai jamais si bien éprouvé, cette réaction délicieuse, qu'une après-midi de dimanche en entrant dans le port de Bonifacio. Nous venions d'avoir 2 jours de gros temps, un vent, une mer, des mâts cassés, de l'eau plein la cale. C'était miracle de s'être tiré de là. Aussi, comme il me parut beau ce petit port qui tournait avec ses eaux dormantes entre d'immenses roches lisses et noires. Au fond, le quai plein de soleil, les maisons de la marine et une longue pente caillouteuse montant vers la ville. Tout en haut, une vieille église bâtie par les Templiers sur une large plateforme d'où l'on découvrait tout l'horizon. Nous arrivâmes là comme les vêpres finissaient. Il me sembla que, de ma vie, je n'avais respiré si largement. On ne voyait rien tout autour que la mer blanche d'écume, les côtes de Sardaigne, le détroit flottant dans la grande lumière. Nous entendions le bruit des lames avec la surprise de n'en plus sentir la secousse. Et le vent passait sur nos têtes, toujours furieux et déchaîné, tandis que nous nous appuyions bien tranquilles à la plateforme. Je n'oublierai jamais cet après-midi de dimanche, ni le ravissement singulier que j'éprouvais à écouter les litanies qu'une confrérie de vieilles bonifaciennes, enveloppée de mantes sombres, récitait en faisant le tour de l'église, noire comme des hirondelles sur cet horizon bleu. Après le tumulte et l'émoi de la tempête, l'éclaboussement des coups de mer, ce calme, ces chants, ce chaud soleil. J'éprouvais comme un trop-plein de joie, de vie, un élargissement de l'horizon, de tout mon être, l'adorable sensation du danger passé.